Bon ben voilà, nous voici donc à la veille de cette semaine. C'est vrai que c'est toujours beaucoup de travail, on y pense toute l'année. Enfin, je pense peut-être plus Emmanuel et Rebecca que d'autres, mais je sais que ça prend beaucoup de temps et aussi beaucoup de préparation et matériel, mais aussi dans la prière et dans la recherche de sujets, d'enseignements. Et on y réfléchit. Et je sais que chacun des moniteurs, chacun, on est un peu en réflexion et on se prépare particulièrement pour trouver la meilleure solution finalement pour toucher les cœurs des enfants, pour les sensibiliser. Et moi j'aime bien me rappeler aussi la faiblesse, et on voit même qu'au temps de Jésus, ce message, il a souvent été dérangeant, et pour les élites du peuple en particulier, et ce message en a surpris beaucoup lorsque Jésus enseignait. Et souvent, lorsque Jésus enseignait, il s'appuyait déjà sur des textes que d'autres hommes de Dieu avaient écrits avant lui. Et souvent aussi, il accompagnait ses messages et ses enseignements par des paraboles et aussi par des signes et puis des miracles. Et forcément, il y en a beaucoup qui ont cru en lui et puis qui devinrent des disciples. Mais aussi, il y en a d'autres, même avec des preuves réelles de la nature divine de Jésus, parce qu'ils ont côtoyé Jésus, ils ont vu vraiment toutes ses œuvres. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cru. Alors ça peut nous interpeller, même au temps de Jésus, il y en a qui n'ont pas cru en lui. Et ce qui est surprenant, c'est que pendant un temps, même ses frères, Jacques et Jude, ses demi-frères, n'ont pas cru en lui. La parole nous dit qu'ils ne crurent pas en lui. Mais dans la grâce de Dieu, ils se sont quand même tournés à Dieu, on le voit dans les Actes. Après la résurrection, quand ils ont vu Jésus ressuscité, là, ils se sont tournés et ils ont cru en leur frère, et en étant le sauveur des hommes. Et il y a même aussi des villes entières qui n'ont pas cru. C'est Jésus qui relate ça, il dit qu'il y a des villes comme Chorazim, Bethsaïda, Capernaum qui ont refusé catégoriquement le message de l'évangile. Et malgré vraiment les actions, il y avait des miracles dans ces villes, malgré les actions puissantes qu'il y avait dans ces villes. Et on peut se poser la question finalement, est-ce que les choses ont changé ? Moi, il ne me semble pas que les choses ont changé. 2000 ans après, plus de 2000 ans après, le message de Dieu est enseigné et il y a toujours des gens qui croient, qui sont touchés par le message et d'autres qui ne croient pas. Il y a toujours des cœurs qui sont réceptifs et des cœurs qui sont incrédules au message de l'Évangile. Alors, est-ce qu'il y a une méthode, une recette finalement toute faite pour convaincre les hommes et les femmes de se tourner vers Christ ? L'auteur de leur salut, du salut de toute l'humanité. Évidemment non, mais comme toujours, ce n'est pas une bonne raison pour ne pas être sensibilisé par le refus du salut de beaucoup. D'autant plus que Jésus parle, il parle de la moisson, une moisson qui est prête et pour laquelle il y a peu d'ouvriers. Et une fois de plus, là, on voit Jésus qui utilise une image pour nous interpeller. Et dans le domaine de l'évangélisation, le meilleur moyen que Dieu a choisi finalement pour parler et pour convaincre, c'est que des hommes, des femmes parlent à d'autres hommes et à d'autres femmes. Ce sont ces ouvriers qui cherchent, ce peu d'ouvriers qui sont là et qu'il veut mettre en route. Et c'était déjà le cas avant parce que il y avait des grands hommes de Dieu, patriarches et des prophètes qui ont retransmis le message de Dieu. Et ce message était bien souvent ressenti comme étant une folie, comme quelque chose qui était un peu incroyable. Comment se fait-il que quelques hommes puissent avoir ainsi ce message ? Et ce qui me surprend aussi, c'est que Dieu, en entendant ce message qui se passait alors jusqu'à présent de bouche à oreille seulement, vraiment Dieu a voulu écrire un livre de souvenirs. Et ça m'a touché, c'est Malachie qui parle de ça. Et c'est pour ça que Dieu a finalement décidé que la Bible soit écrite. Et cette Bible, elle n'est pas seulement restée dans un livre, c'est aussi Jésus. Jésus était la parole, nous dit la Bible, Et Jésus s'est fait parole. Et cette, dans l'attention parfaite que Dieu a eue envers l'homme, ben son attention est venue jusqu'à dire ben, « J'envoie mon fils, c'est lui qui me fera connaître la parole. » Et cette parole a pris vie. Cette parole s'est mise en œuvre. Cette parole originelle qui a été, qui est le commencement de la création, elle est maintenant le commencement aussi du salut de l'humanité. Et nous, à notre tour, si nous avons entendu ce message un jour, c'est parce que d'autres enfants de Dieu ben, l'ont relayé et nous l'ont retransmis. Et c'est nos pères spirituels, comme on pourrait le dire, ben, un jour aussi, ils ont été une lettre pour nous. Ils nous ont une lettre écrite, ils ont été ces porte-paroles, ils ont vécu cette parole de Dieu et par leur témoignage, ils nous ont touchés et ils ont pu nous convaincre. Donc ça, c'est l'aspect humain des choses, c'est l'aspect visible, mais on sait que derrière, il y a tout un élan, et par l'esprit particulièrement, Dieu agit et continue à agir dans les cœurs des hommes. Alors nous, pendant cette semaine, on va être ces lettres écrites, nous allons être ces témoins fidèles, et par notre attitude, nos paroles, nos chants, nos enseignements, eh ben, nous allons montrer à tous les enfants, et indirectement ou directement aussi aux parents, combien vraiment il est important de s'approcher de Jésus et de se mettre à l'écoute de son message. Et tout ça pour rendre vraiment sa vie conforme au plan de salut que Jésus-Christ nous a offert. Et c'est aussi par la façon dont on met en œuvre cette parole aussi dans notre propre vie, cette parole de Dieu vivante, ben aussi que nous pouvons être ses témoins et porteurs de ce message. Alors évidemment, annoncer l'évangile, c'est le rôle de tout enfant de Dieu. Paul nous dit de ne pas avoir honte de l'évangile. Et il se pose même la question, mais comment croiront les hommes s'il n'y a personne qui leur parle du salut? Et donc c'est notre part à tous de semer cette parole de vie. Et nous savons aussi que c'est la part de Dieu d'en assurer la croissance. Et très souvent, Jésus compare l'évangile à une semence. Et c'est le cas de ce texte de Marc 4, verset 6 que je vous propose de lire. C'est peut-être des versets qu'on a lus et relus. Verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Moi, ce verset, il me rassure. Parce que, avant cette semaine, de commencer cette semaine, ce qui me rassure, c'est que c'est la semence qui germe et croît, ben, sans que nous, on sache comment. Franchement, ça me soulage. Notre rôle est celui de planter. Je dirais, entre guillemets, voire d'arroser. Mais arroser, c'est justement se mettre en prière. C'est demander à Dieu, parce qu'on n'a pas toujours de l'eau, mais demander à Dieu que l'eau descende et qu'elle vienne arroser et abreuve la terre. Mais ce passage nous montre que c'est le Saint-Esprit qui donne la vie et la croissance. Et enfin aussi, ce verset nous dit qu'il ne reste plus qu'à moissonner, car le fruit mûr est là. Et ça aussi, c'est notre mission. Car notre Seigneur nous dit que cette moisson est grande. Alors vraiment que notre Seigneur soit glorifié, car Jésus sauve encore aujourd'hui, malgré le péché et l'incrédulité au sujet de Dieu. Depuis une trentaine d'années, cette église, elle est placée dans cette ville. Ne pensez-vous pas qu'il est venu le temps de la moisson? Est-ce que nous voulons que Prêves-Saint et le pays de Gex soient comme Chorazim, Bethsaïda ou Capernaum, avec une population qui reste incrédule et sourde? Non, on a une responsabilité, chacun, et surtout en communauté, une responsabilité vis-à-vis de ses habitants. On n'est pas là réunis ce matin au hasard de nos rencontres. Deb, il y a 3 semaines, a fait un rêve, qui nous a fortement interpellés. Elle a rêvé d'un énorme chaudron, de la taille un peu d'un terrain de foot, où il y avait toute une foule dedans qui se débattait pour en sortir, qui était dans un tourbillon qui peu à peu s'engloutissait. Et on était tous là, tous nous, du haut du stade, à nous tenir par la main comme ça. Et il y avait quelqu'un en bas qui essayait d'attraper les mains des uns et des autres pour essayer de les sortir. Réellement, la situation, elle est grave. Beaucoup de nos concitoyens se croient persuadés d'être libres. Ils se trouvent finalement fermés dans une agitation qui est totalement stérile. Puis il y en a d'autres qui peuvent être las de cette agitation de ce monde et se tournent vers d'autres spiritualités, mais l'agitation, elle revient tout aussi régulièrement. Alors évidemment, pour oser parler de l'Évangile, il faut que chacun de nous en soit personnellement convaincu que nous avons un message important à transmettre. Et avant de réfléchir à la forme qui convient pour transmettre ce message, il est vraiment primordial de réfléchir aussi à son contenu, puis sans négliger vraiment les différents aspects et puis les personnes principales qui sont concernées par le sujet. Et parmi les principaux concernés, bien sûr, il y a les hommes, qui sont les seuls dans le monde créé par Dieu, les seuls qui peuvent bénéficier du salut. Car la Bible nous dit que c'est seulement aux hommes que Jésus est venu en aide. Nous savons que le Dieu Sauveur s'est fait connaître comme étant ce Père. Le Père, donc Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, le Père qui envoie son Fils, et le Fils qui nous envoie le Saint-Esprit. Et tout ça pour nous ramener vers lui. Le Fils nous a tout accompli, et nous envoie aussi le Saint-Esprit pour nous revêtir de la même nature que lui. Mais franchement, comment on peut négliger un si grand salut ? On a Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, qui s'est totalement mobilisé pour l'humanité. Il s'est totalement mobilisé pour m'arracher de ma situation de pécheur et pour me transformer et puis faire briller sa gloire sur moi. Les autres concernés par le salut, ce sont les anges. Que Dieu, c'est Hébreu qui dit ça, nous envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter de salut. Et les anges, dans leur ministère, ils ont de la joie. Les anges se réjouissent systématiquement lorsqu'il y a une âme qui est sauvée. Les anges sont mobilisés pour annoncer aussi, nous aider dans cette œuvre d'annoncer le message de l'Évangile. Et enfin, il y a le diable aussi qui est là. Et lui, il veut fermer la porte. Il enlève la parole ou bien il la mélange avec des mauvaises graines pour que la moisson soit gâchée. On l'a rappelé ce matin, le diable est là aussi, il veut enlever des ouvriers. Il veut essayer de les décourager, il veut essayer de fermer des portes. Mais s'il y a autant de beau monde, tous créatures de Dieu qui sont concernées par mon salut, par le salut de nos prochains, par le salut de ses enfants, mais il faut bien réaliser que l'enjeu, il est vraiment primordial et qui concerne vraiment la destinée éternelle de milliards d'êtres humains. Les hommes sont les seuls qui peuvent bénéficier du salut. Toutes les créatures, je dirais célestes, sont mobilisées pour ça ou contre ça. Est-ce que nous, on est conscients de ça ? Est-ce que nous, on va se mobiliser à notre tour ? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de penser que, quelquefois, nos prochains, quand on les voit vivre, ils sont finalement irrécupérables, quand on voit leur vie. Non, rappelons-nous que Christ est mort pour sauver ceux qui sont perdus et non pas les justes. Je vais afficher ce verset, Matthieu 9, verset 12. Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « je prends du plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Dans le petit raisonnement simpliste, souvent on associe le péché comme étant un obstacle au salut, alors que les évangiles nous montrent le contraire. Souvenez-vous, regardez comme Jésus, avec qui il partageait ses repas, des gens qui n'étaient pas très fréquentables. Et ça, c'était aux grandes dames des religieux de l'époque. Regardez quel accueil il fait au fils prodigue, qui était parti pour avoir la paix vis-à-vis du Père. Regardez quelle énergie il déploie pour aller chercher la brebis perdue et en laissant les 99 qui sont déjà avec lui. Les bénis du Seigneur ne sont pas ceux qui croient bien se porter. Ce sont ceux qui se sentent malades, déficients devant le Seigneur et qui viennent demander pardon. Et Dieu résiste par contre aux orgueilleux alors qu'il fait grâce aux humbles. Quand Jésus nous dit que la moisson est grande, c'est justement que le péché dans le monde est à un tel niveau élevé que le besoin du salut est tout aussi important. Notre mission est donc de nous adresser aux pécheurs pour leur transmettre ce message du salut. Alors après les personnes qui sont concernées par le salut, le second point qui est important de considérer, c'est le contenu du message. Et aucun individu ne peut accepter le salut s'il n'en ressent pas le besoin. Et aucun individu ne reçoit le besoin s'il n'est pas conscient que sa situation propre de péché le condamne à jamais de la mort éternelle. Pour que chaque homme ou femme saisisse le salut gratuit de Dieu, il faut d'abord qu'il soit convaincu qu'il est pécheur et qu'il adopte une attitude de repentance vis-à-vis de sa situation. Et le chemin de la repentance, c'est le passage obligé pour saisir le message du salut. La repentance, elle est primordiale. C'est Jean-Baptiste qui l'a prêché. Et je souligne juste que Jean-Baptiste, c'est celui qui est venu avant Jésus. Et il a prêché que ça. Il a prêché que le baptême de la repentance. Et ça, avant que Jésus apporte la solution où la grâce coule. De la croix. Et Jésus aussi l'a prêché à maintes reprises. Il a envoyé même ses disciples faire de même. Après la Pentecôte, les apôtres ont proclamé le message de la repentance. La repentance, c'est donc une étape extrêmement importante et primordiale dans le chemin du salut. Il y a sur la terre deux catégories de personnes. Celles qui se croient justes et pensent n'avoir pas besoin de repentance, et celles qui se sentent misérables et qui disent vouloir se repentir, demander pardon à Dieu et changer de vie. Je vous propose encore de lire une dernière parabole, Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le publicain, je vais traduire, un homme donc de la rue, un simple homme pécheur, se tenait à distance, n'osait pas même lever les yeux du ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Lequel des deux s'en retourne justifié? Seulement celui qui a demandé pardon à Dieu. L'autre est reparti sans aucune bénédiction de la part du Seigneur. L'importance de la repentance est primordiale dans le salut, je le répète. il n'y a pas de salut sans repentance. Pour notre part, nous n'avons pas à accuser les autres, nous n'avons pas à nous sentir supérieurs aussi aux autres dans notre message. Nous avons à nous considérer bien petits devant Dieu et devant les autres. Ce que nous avons à faire, c'est nous-mêmes passer par une expérience profonde de la repentance devant le Seigneur. C'est aussi tout comme Jean-Baptiste, Jésus et les apôtres, ce que nous devons expliquer à notre tour, aussi bien aux propres justes qu'aux pécheurs qui ne trouvent pas de solution dans leur situation, qui sont désespérés. Dans les évangiles, le mot grec qui est traduit par repentance, c'est métanoïa. Et ce mot grec fait ressortir cette notion de changement de pensée, de conversion. En gros, si la métamorphose, c'est un mot qu'on connaît peut-être un peu mieux, et c'est la transformation du corps, la métanoïa, c'est le changement d'intention, de mentalité, de perception vis-à-vis du péché aussi. Et moi, je me souviens, lorsque je me suis converti, c'était en plein mois de juillet, un peu, peut-être ces jours-ci, et j'avais 15 ans, et je me suis mis à genoux avec de grosses, grosses larmes. Et je ne sais pas d'où ça venait, mais apparu devant moi l'horreur de mon péché. Et j'ai éprouvé vraiment une profonde, profonde tristesse. Pas seulement pour mes péchés, mais aussi pour le péché qu'il y avait dans le monde. Et je ressentais vraiment cette douleur d'avoir offensé Dieu. Et en d'autres occasions, par la suite et encore aujourd'hui, je ressens cette tristesse et cette douleur. Eh bien, je rends grâce à Dieu pour ces rappels réguliers vraiment du Saint-Esprit où il me convainc de pécher. Même en communauté, lorsque nous avons lavé les pieds il y a quelques années, quelle tristesse, moi j'ai ressenti, et je ne suis pas le seul, dans la situation que nous vivions. Mais souvent la tristesse, elle est perçue par les chrétiens comme étant un échec. Et elle peut avoir une action aussi culpabilisante. Et il me semble important de différencier de quelle tristesse il s'agit. Paul, dans la seconde épître aux Corinthiens, il parle de deux tristesses. La tristesse selon Dieu, qui produit une repentance pour le salut, et la tristesse du monde, qui produit la mort. Et moi je crois, j'ai réfléchi à ça, je pense que des fois on fait l'amalgame entre ces deux tristesses. On considère arbitrairement qu'un chrétien ne peut pas être triste. Car s'il est triste, c'est que sa vie spirituelle est bien mal en point, voire morte. Non, c'est plutôt fortement conseillé, vous savez, d'être triste. Je dirais d'être attristé selon Dieu. Car avec sa grande bonté, il veut nous amener à nous repentir. Mais n'oublions pas non plus que la tristesse, elle doit être suivie de la repentance. Donc la tristesse et la repentance qui l'accompagnent, ben ce ne sont pas non plus une attitude permanente du chrétien, ça. La vraie repentance, ce n'est pas la crainte de la mort ou d'un jugement, mais la repentance, elle intervient toujours entre deux étapes. Tout d'abord, celle que nous venons de vivre et qui suppose une situation anormale, un mauvais chemin emprunté, un état de péché dans lequel on se tient, mais on regrette. On en a un profond dégoût. On déteste son péché. Et ce péché, on pourrait presque dire qu'on le prend en haine. Et puis, il y a une étape devant nous, et c'est la prochaine étape. Vous savez, il y a le Tour de France en ce moment, ils vont d'étape en étape. Et il y a l'étape devant nous qui nous est orientée vers l'avenir et qui nous ouvre une voie nouvelle. Et ça, c'est l'amorce d'une vie nouvelle. La repentance, elle se situe entre le péché et le salut de l'âme. On n'entre dans la repentance que pour en ressortir. Si on rentrait toujours dans ce sentiment de repentance, ben ce serait désespérant et on serait finalement les plus malheureux des hommes. Mais on rentre dans la repentance pour sortir de sa condition pécheresse. Et c'est à nous, pécheurs, de laisser finalement le Saint-Esprit nous convaincre. Tout comme la route qui permet de relier les étapes, la repentance est le chemin qui nous fait avancer dans notre vie chrétienne et nous fait découvrir toute la richesse de la grâce de Dieu. Tout comme la route, la repentance, elle n'est pas prévue pour y rester en panne au bord du chemin. Au bout de ce chemin se trouve le pardon et la grâce de Dieu. On a des fois tendance peut-être à vouloir sauter les étapes, pas prendre la route, prendre peut-être l'avion, et à prêcher la grâce seule. Mais n'oublions pas que pour découvrir toutes les richesses de la grâce de Dieu, il faut passer par la repentance et ressentir l'horreur de son péché. Mais il ne faut pas non plus prêcher que la repentance. Le message de la repentance doit être immédiatement suivi de celle de la bonne nouvelle. Voilà donc quel est le message que nous devons adresser à tous ces enfants, à tous ces jeunes, et si on a l'occasion, à nos collègues de boulot, à nos voisins et aux parents. Il vous faut passer par cette expérience de la repentance, mais n'en restez pas là. Venez à Jésus. Il a porté notre péché sur la croix. Venez, votre vie va être réorientée. Autant auparavant, vous étiez tourné vers les choses qui périssent, maintenant vous êtes tourné vers celui qui vit éternellement, vers celui qui veut vous associer dans sa gloire éternelle. Tout comme Jésus, annonçons ce message de la repentance. Vous savez, le premier message que Jésus a annoncé, le premier passage, c'est dans Marc 1, verset 15, on va l'afficher, et ça m'a interpellé aussi, le premier message qu'il a adressé aux hommes, Marc 1, verset 15, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il n'y a pas seulement repentez-vous, il y a à croire à cette bonne nouvelle. Il y a à croire au bénéfice de cette œuvre à la croix. Croire que de cette croix coule la miséricorde, coule la grâce et coule toutes les bénédictions. La repentance, la tristesse, c'est des fois dur. Mais Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a envoyé le Saint-Esprit, il nous a envoyé le Consolateur. C'est lui qui va nous consoler. C'est lui qui veut nous faire voir maintenant, entrevoir eh bien, ce fruit, qui veut nous faire entrevoir tous les bénéfices. Et vivons par le Saint-Esprit aussi. Croyez à la bonne nouvelle. Oui, Père, vraiment, nous voulons te rendre grâce pour ton message parfait de l'Évangile. Tu n'as rien laissé au hasard. Mais c'est vrai que tu as aimé celui qui est pécheur. Tu as aimé celui qui est malade. Tu as aimé celui qui est dans le désespoir, qui n'a pas de solution. Seigneur, tu me touches ce matin. Tu m'as touché et je te rends grâce de ce que tu veux encore utiliser, ces passages, ces paraboles, utiliser ta parole encore aujourd'hui pour toucher les cœurs, pour transformer la vie de ces enfants. Oui, nous mettons, Seigneur, entre tes mains. Nous voulons que tu nous donnes nos bouches qui ne soient pas timides, notre âme qui ne ressente pas la honte de l'Évangile, mais que nous ayons durant cette semaine, chacun, et dans nos moments de prière, ce zèle pour toi, ce zèle pour proclamer vraiment la victoire de ton œuvre à la croix. Oui, viens en consolation à ceux qui sont blessés. Montre au propre juste la situation d'échec qui sont dans cette agitation de ce monde en train de tomber dans le gouffre. Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur. Nous te prions vraiment cela et bénis nos rencontres, nos discussions, nos entretiens que nous aurons les uns et les autres durant cette semaine. Merci Seigneur encore d'avoir suscité des ouvriers pour cette semaine. Merci, on te prie vraiment, on continue à te prier pour leur protection, pour que tu les guérisses. Et on sait que, Seigneur, l'ennemi cherche à arracher, l'ennemi cherche à ôter ses graines, à supprimer et rendre inutiles des ouvriers, mais on veut proclamer surtout ta victoire. Ô Seigneur, viens, c'est vrai, comme Raymond l'a prié, viens mettre cette haie de protection sur Rachel, chez Jonathan, sur Pierrick. Seigneur, veuille les garder, sur Madeleine aussi, veuille les remettre sur pied totalement, veuille que instantanément ce matin, ils ressentent la paix dans leur corps, Seigneur, et la délivrance de toute douleur, Seigneur. Oui, nous te prions parce que nous savons que tu es plus fort que l'ennemi de nos âmes, tu es plus fort que celui qui veut là, qui a aussi des vues par rapport à ces hommes, parce qu'il veut que aussi beaucoup périssent. Mais tu es au-delà de cela, Seigneur. Toi, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Et on veut s'ancrer sur cette parole et proclamer ta victoire durant cette semaine. Sois béni vraiment, parce que tu as tout entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Merci de nous rappeler que la repentance est effectivement un moyen par lequel Dieu désire se révéler, un moyen par lequel il désire que chacun atteigne cette plénitude. Et c'est ce que je crois, c'est ce que nous voulons partager aussi pendant cette semaine avec les enfants qui seront accueillis. Je partage avec vous le programme de la semaine, quelques bribes du programme, puisque la plupart de nos activités seront concentrées sur le club d'été. Justement, cet après-midi, rencontre de préparation du club d'été à 14h ici. Et donc, je vous rappelle ce que Emmanuel nous a dit, il manque un aide-moniteur. Donc, si quelqu'un est disponible cette semaine, ne vous privez pas de cette joie de le servir, de pouvoir partager ce temps avec l'équipe et de pouvoir faire ce remplacement. Mercredi 15, on a une réunion de prière à 17h30. Ce n'est pas habituel, 17h30, c'est tôt. Cette réunion de prière aura lieu à la salle Gaston Laverrière, là où se tient le club d'été. Et c'est important de prier, c'est important de prier avant, c'est important de prier pendant, ce sera important de prier après. Là, on vous invite de venir pour prier pendant. Et c'est vraiment quelque chose d'important que de remettre cette semaine à notre Dieu et de la remettre aussi pendant la semaine. Le club d'été va se terminer par un apéritif vendredi en fin de journée. Et pour cet apéritif, bien sûr, il faut des choses à partager. Alors, si on compte bien, on sera assez nombreux à cet apéritif, une soixantaine de bénévoles, 80 enfants, des parents. Bien, en gros, on sera entre 180 et 200. Donc, c'est peut-être bien qu'il y ait plus qu'un paquet de cacahuètes et 4 sugus. Donc, il y a sur le panneau au fond de la salle, il y a une feuille pour s'inscrire. C'est important de pouvoir s'inscrire, qu'on sache un petit peu à l'avance qui va participer, qu'est-ce qu'il y aura comme chose à partager. Donc, du sucré, du salé, peut-être aussi des boissons. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est important que chacun participe à cela. C'est le dernier jour, voilà. Le vendredi, c'est aussi le dernier jour. Ah oui, aujourd'hui, c'est le dernier jour où il faut s'inscrire, puisque dimanche prochain, ce sera trop tard. Hein. Voilà. Ouais, donc, s'il n'y a plus de place, on tourne la feuille, puis là, il n'y a pas de colonne, il n'y a rien, donc il y a encore plus de place derrière. Samedi prochain, il y a Jonathan et Rachel qui déménagent. Alors, on a entendu que Jonathan a le dos bloqué. C'est pas facile d'envisager un déménagement quand on a le dos bloqué, encore plus. Alors, ils nous demandent de l'aide, et moi je crois que c'est important de répondre de façon positive. Ils nous proposent de se retrouver chez eux, alors ils habitent à Thoiry. Alors j'ai mis aussi sur le panneau d'affichage un papier sur lequel on peut s'inscrire si on veut participer, pour leur donner un coup de main. Donc c'est important de mettre qui c'est qui va venir, le nombre que vous serez, de mettre aussi quel type de véhicule vous aurez, parce que s'il y a assez de véhicules, c'est pas forcément nécessaire de louer une camionnette. Donc il nous invite à partir de 7h30 pour le café et les croissants. Donc là, je sens que Nathan va venir là. Ensuite, le déménagement qui aura lieu à partir de 8h. Donc, ils nous invitent à Thoiry. Alors, pour ceux qui ne savent pas où est-ce que Jonathan et Rachel habitent et où est-ce qu'ils vont habiter après, j'ai mis toute une série de petits papillons sous la feuille d'inscription, sur le panneau. Alors, prenez-les, c'est fait pour être pris. Sur ces papillons, il y a l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée. Il y a aussi les deux téléphones portables de Jonathan et Rachel, ainsi que l'adresse email de Rachel, parce qu'ils demandent à ce que on précise si on veut rester pour le repas qui suivra, parce qu'après il prévoit un petit repas pour remercier les personnes qui donnent un coup de main, mais il demande à ce que les personnes qui restent pour le repas les préviennent, parce qu'ils ont besoin aussi de savoir un petit peu à l'avance pour combien de personnes ils doivent préparer. Donc voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas à venir me trouver. Dimanche prochain, le culte qui aura lieu ici à 10h30, donc un culte un petit peu particulier, un culte portes ouvertes, alors pas seulement portes ouvertes pour avoir un petit peu moins chaud, mais aussi portes ouvertes pour faire connaître ce qu'est l'Église, puisque les parents des enfants du club d'été seront invités. Donc un culte d'ouverture, un culte aussi pour se faire connaître et aussi faire connaître l'Évangile aux parents. Le mardi d'après, donc le 21, il y aura l'étude biblique pour les aînés. Ensuite, les dernières informations, je vous ai parlé plusieurs fois de concert de All Souls Orchestra, de cet orchestre anglais qui passe dans le pays de Gex. Alors malheureusement, ça tombe pendant la semaine du club d'été, donc voilà, c'est comme ça. On est déjà beaucoup pris, puis c'est juste aussi de mettre des priorités dans nos activités. Par contre, ils ont besoin de personnes pour préparer un repas pour jeudi à midi. Alors, si quelqu'un avait de la disponibilité, contactez-moi, je vous donnerai les informations. Ensuite, il y aura deux représentations de cet orchestre. Une première représentation jeudi 16 à 18h à Divonne, à la place Pertan. Et puis vendredi 17 à 19h30 à Nyon. Et à Nyon, ce sera sur le parvis de l'église catholique de la Colombière, donc juste en dessous du château. Pensons aussi à Didier, qui est dans l'attente de ses résultats, qui devrait venir probablement d'ici une dizaine de jours, mais c'est important aussi de continuer de le remettre dans nos prières. Cette semaine, on veut penser, comme chaque semaine, à un pays dans lequel il y a de la persécution, et cette semaine, on vous invite à penser et prier pour la Mauritanie. La Mauritanie, c'est donc 48, là, qui est située entre le Maroc et le Mali. La Mauritanie est l'une des quatre républiques islamiques qui existent dans le monde. D'après sa constitution, l'islam est la seule religion pratiquée par les Mauritaniens. Il n'y a pas de place pour une autre religion. Et la charia est la seule législation reconnue. La liberté religieuse n'est pas reconnue et la conversion à la foi chrétienne est tout simplement illégale. Alors prions vraiment pour nos frères et sœurs chrétiens en Mauritanie, il y en a. En Mauritanie, il y a 5100 chrétiens qui sont principalement des personnes qui sont des expatriés, donc qui viennent en Mauritanie pour y travailler. Mais il y a aussi quelques chrétiens dans les Mauritaniens. Prions pour eux. 5100 chrétiens pour 4 millions d'habitants, c'est peu, c'est très peu. Surtout que ce sont principalement des chrétiens expatriés. Donc voilà, on vous remet ce pays et c'est important de penser à eux dans la prière. Je vous invite à vous lever. Je vous lis encore trois versets. Trois versets qui nous parlent d'espérance. Et je crois que c'est important, parce qu'on a un Dieu d'espérance. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit, c'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Amen.